RCF.
Le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine, Blandine Jeanne.
Le festival L'Étoile Filante, c'est à Pessac en Gironde du 13 au 19 février. Un festival dédié au jeune public, un festival de cinéma avec plus de 20 films présentés. On le découvre ce soir avec notre invitée Raphaëlle Ringeade, coordinatrice et programmatrice de l'événement. À 18h30, on retrouvera comme chaque soir le journal régional. Avec vous, Denis Charbonnier, bonsoir. Quels sont les titres dans l'actualité de ce jeudi, Denis ?
Bonsoir. Ce soir, Blandine, la solidarité avec les Turcs et Syriens suite au tremblement de terre. Les associations collectent les dons et vêtements neufs. Les bons résultats du port de pêche de la Cotinière sur l'île d'Oléron après les travaux engagés l'an dernier. Pour s'engager pompiers volontaires, il faut que les employeurs soient plutôt conciliants et nous découvrirons l'accordéon du 21e siècle fabriqué à Tulle.
Et comme chaque soir, on retrouvera aussi le clin d'œil positif. On parlera du diocèse de Poitiers qui entreprend la restauration de plusieurs œuvres de son patrimoine. 7 tableaux doivent être rénovés. Pour cela, le diocèse fait appel au mécénat, vous l'entendrez dans quelques instants. Enfin, le jeudi, c'est la chronique santé qui conclut cette émission avec vous, Dominique Jobert. Bonsoir, de quel thème allez-vous nous parler ce soir, Dominique ?
On va parler de l'épidémie de Covid, puisque on est maintenant 3 ans après ce coup de tonnerre qu'avait été la première vague de Covid en février 2020. Et donc, on va faire un peu le point.
Et vous avez le programme, c'est parti pour 50 minutes d'infos en région Nouvelle-Aquitaine. Des oiseaux sont au programme de la 18e édition du festival L'Étoile Filante à Pessac. De drôles d'oiseaux, L'Étoile Filante, c'est un festival jeune public conçu pour toute la famille du 13 au 19 février en Gironde. Donc, une idée de sortie pour ces vacances scolaires dont on parle avec Raphaëlle Ringeade. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice et programmatrice de cet événement. Qu'est-ce qu'on entend déjà par ce festival L'Étoile Filante ? Un joli jeu de mots déjà.
Ouais, un joli jeu de mots, L'Étoile Filante. C'est un festival qui existe donc depuis 18 ans, c'est la 18e édition plutôt. Donc c'est un festival de cinéma à l'intention du jeune public. Ça veut dire qu'on fait une programmation qui va intéresser particulièrement les enfants de 3 à 12 ans, même si bien sûr les adultes sont les bienvenus puisqu'il y a plein de films pour tous les âges.
Alors c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Thématique de cette année, je le disais, drôle d'oiseau. Pourquoi ce thème et comment il se décline ?
Alors le thème, chaque année on choisit un thème. Pour choisir un thème, ce qu'on regarde nous, c'est est-ce qu'il va y avoir des films pour justement les 3 ans, les 4 ans, les 6 ans, les 12 ans. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis il faut qu'il y ait des films avec une programmation assez variée, des films d'animation, des films en prise de vue réelle, des documentaires. Enfin, c'est ce qu'on regarde un petit peu pour choisir le thème. Et on choisit aussi en général un thème sur lequel on va pouvoir décliner des animations et des partenariats. Par exemple, cette année sur les oiseaux, on est en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui va intervenir à plusieurs reprises pendant le festival. Donc voilà comment un petit peu on choisit nos thèmes. Et puis les oiseaux, ben, il se trouve qu'il y a beaucoup de films qui ont pour personnages principaux des oiseaux. C'est ce qui nous a décidé à choisir ce thème.
Alors, le cinéma Jean Eustache qui accueille ce festival s'habille aussi couleur des oiseaux ?
Alors, tout à fait. Alors, le cinéma Jean Eustache fait plus qu'accueillir, c'est le cinéma Jean Eustache qui est organisateur du festival. Et puis, effectivement, la semaine du festival, même s'il y a aussi une programmation pour le public adulte en même temps que le festival, on décore le hall, le cinéma, aux couleurs des oiseaux, aux couleurs du festival. Et avant le festival, on propose pas mal de séances de sensibilisation avec des centres de loisirs, avec les centres sociaux. Et dans ces séances de sensibilisation, les enfants créent des oiseaux ou créent des choses en lien avec le festival. Et toutes ces créations sont installées dans le cinéma.
Nourrissent le décor, en fait.
Exactement. Donc là, quand on rentre dans le cinéma, il y a des grues en origami pour nous accueillir. Et puis, il y a des petits oiseaux suspendus dans un espèce de grand nid au-dessus des spectateurs dans le hall du cinéma. Voilà, il y a des dessins qui ont été faits, des peintures, des petites créations qui ont été faites par les enfants avec mes collègues qui sont occupés de tout ça.
Alors, comment est-ce qu'on adapte une programmation pour des tout-petits, par exemple ? Comment on fait ?
Alors, en fait, on regarde ce qui existe comme programme de films. Pour les plus petits, en général, ce sont des programmes de court-métrage, des programmes courts qui durent moins d'une heure. Et ces programmes-là, il y en a plein qui existent. Donc nous, après, on va choisir vraiment ce qui nous plaît dans ces programmes de court-métrage et ce qui est en lien avec le thème. Et puis, ce qui est intéressant dans ce festival et qu'on fait aussi toute l'année aux gens au stage, mais particulièrement pendant le festival, c'est qu'on accompagne les films pour les tout-petits d'animation. Qu'on propose après la séance ou dans la salle pour tout le monde.
Voilà. Donc il y a plutôt des séances qui sont adaptées en fonction des âges aussi, quoi.
Exactement. Une séance de court-métrage pour les tout-petits, par exemple, si on prend dans notre programmation Pingu, qui est un programme de court-métrage avec des petits pingouins en pâte à modeler, et ben on va accompagner la séance d'une animation pâte à modeler après la séance.
Pour refaire ces
petits personnages. Donc ça permet de prolonger la séance, de reparler du film, et puis que les enfants puissent repartir avec un petit pingouin en pâte à modeler qui leur rappelleront le film et qui permettra de prolonger cette séance, d'en reparler à la maison. Et voilà.
Alors, qui dit festival dit film en compétition, j'imagine.
Tout à fait.
Donc, combien il y a de films ?
On a une sélection. Donc, en parallèle de la thématique, on a une sélection de films en compétition. La plupart de ces. Donc, on en a 7 cette année. Il y en a 6 qui sont des films en avant-première. Il y en a un qui n'est pas en avant-première, mais il sort cette semaine, en fait. Donc, c'est pas tout à fait une avant-première, mais presque. Et l'idée de cette compétition, c'est pour nous un. Donc le public qui va venir en salle voir les films pourra voter à l'issue de leur projection, ce qui permettra de donner le prix du public. Et puis en parallèle, on accueille des jurys d'enfants et des jurys adultes, de professionnels du cinéma, qui vont voir tout au long de la semaine les films et puis qui vont choisir leur film préféré. Et ce travail qu'on fait, en tout cas avec les jurys d'enfants, c'est pour nous hyper important. C'est un peu un travail d'éducation au cinéma qui permet de voir des films, d'en discuter à plusieurs, d'aller au-delà du j'aime pas, de pouvoir essayer de mettre des mots sur ce qu'on a ressenti, sur ce qu'on a vu, et puis à la fin de la semaine de choisir ensemble. C'est des jurys de 10 enfants à peu près
qui sont originaires d'école de Pessac, c'est ça?
Alors il y a des enfants des centres de loisirs de Pessac, un jury d'un centre social de Pessac, des enfants d'un centre de loisirs de Mérignac, des adolescents de la structure jeunesse de Pessac, et puis un dernier jury des enfants inscrits à la Petite Unipop, qui est un dispositif qu'on mène à l'année au cinéma Jean Eustache.
Et donc, ils vont voir ces films et donc dire leurs préférés, c'est ça l'idée?
Exactement, ils sont accompagnés par quelqu'un qui, toute la semaine, les accompagne dans les séances, et après chaque séance, prennent un temps de discussion où ils vont pouvoir dire ce qu'ils ont pensé du film, ce qu'ils ont ressenti, et puis à la fin de la semaine, il faut choisir parmi tous ces films, quel est le film qui préfère. Et on organise le samedi 18, le palmarès du festival, où chaque jury va venir sur scène remettre le prix du film qu'ils ont préféré.
Et il y a aussi un jury professionnel alors ?
Alors il y a deux jurys professionnels, il y a un jury d'exploitants de cinéma de la Nouvelle-Aquitaine, et puis un jury dit professionnel aussi, où donc là c'est un peu plus éclaté. Il y a cette année à la présidence Pierre-Luc Grandjean qui est un réalisateur, on accueille aussi un distributeur de films jeunes publics, les distributeurs sont les gens qui nous proposent les films dans les cinémas, on accueille aussi quelqu'un qui représente le groupe AFCAE Jeunes Publics, donc au niveau national, et puis quelqu'un de Pessac, un instituteur, un professeur des écoles de Pessac, et puis une jeune femme qui est animatrice qui travaille à Angoulême, parce qu'il y a beaucoup d'animations qui se font à Angoulême, et voilà, donc on a un jury de 5 personnes pour le jury professionnel.
Alors, est-ce que ces films en compétition, ils ont tous un rapport avec les oiseaux, ou est-ce qu'on sort du thème pour cette compétition ?
Eh ben, pas du. Ouais, voilà, exactement. Les films en compétition, c'est une sélection à part qui n'est pas en lien avec le thème. Mais il se trouve que cette année, un des films de la compétition, c'est un programme de court-métrage qui s'appelle à vol d'oiseau et qui est complètement dans le thème, mais c'est le hasard total. Donc effectivement, les films de la compétition, ce sont des films en avant-première ou inédits qui n'ont pas été, qui n'ont pas encore de distributeurs en France, mais qui ne sont pas en lien directement avec le thème.
Des longs métrages, des courts métrages, tous dans la même catégorie, comment ça se passe?
Exactement, tout à PESAC, c'est une compétition où on met tout le monde dans la même catégorie. Un film, par exemple, on a un film qui s'appelle The Quiet Girl, qui est un film en prise de vue réelle, qui est plutôt pour les grands, enfin qui est même plutôt pour les adultes, mais qu'on pourra montrer à des adolescents
qui
à partir de 11 ans. Et puis à côté de ça, on a le programme, par exemple, à vol d'oiseau dont je viens de vous parler, qu'on peut voir à partir de 6 ans et qui est plutôt un programme à destination des enfants, même si encore une fois, les adultes sont les bienvenus pour voir ces films.
Comment est-ce qu'on choisit ces films en compétition? C'est vous qui choisissez au jour du stage ou comment ça se passe? On vous les propose, vous en avez 500, comment vous les voyez tous?
Alors on en a rarement 500. Non, on est en lien avec les distributeurs des films ou parce qu'on va dans des festivals comme Annecy, le festival de cinéma d'animation à Annecy qui a lieu en juin. On voit des choses et donc on les repère pour le festival. Et puis après, moi, j'appelle aussi les distributeurs des films avec qui on travaille et je leur demande s'ils ont des films qui sortiront dans les mois prochains qui pourraient être proposés en compétition. Donc après, on voit les films et puis on sélectionne les films, les 7 films. En général, on a 7 films sur ce festival qu'on va proposer pour la compétition.
Est-ce qu'on a eu des films qui ont eu des prix au Festival d'Étoiles filantes les années précédentes et qui ont eu un beau parcours après?
Alors, c'est une question à laquelle je ne vais pas forcément savoir répondre. Mais par contre, il y a eu un film qui a... C'est pas une histoire de prix, c'est un film qu'on avait choisi dans la thématique Merveilleuse Nature il y a quelques années, qui s'appelait La Vallée des Loups, qui était déjà sorti au cinéma et on l'avait sélectionné pour le mettre dans notre festival. Il était sorti quelques mois avant le festival, complètement inaperçu, et on l'a passé, on a fait venir le réalisateur qui s'appelle Jean-Michel Bertrand. Il a été vu par les membres du jury. On avait, même s'il n'était pas en compétition, les membres du jury l'avaient vu parce qu'on avait fait une séance spéciale de ce film avec le réalisateur justement et la chef opératrice. Et ça avait été une découverte. Et suite à cette découverte, ce film, il a eu un très beau parcours. Donc l'histoire de ce film, par exemple, elle est un peu née, enfin elle n'est pas née l'histoire du film, mais son beau parcours est un peu née du festival d'Étoiles filantes et des gens qui l'ont vu et qui ont eu envie à cœur de le soutenir, par exemple sur un dispositif comme École et Cinéma, où maintenant il fait partie du catalogue École et Cinéma.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce dispositif?
C'est un dispositif de cinéma dans le cadre scolaire, qui est donc un dispositif national, où des enfants, les enseignants qui s'inscrivent à ce dispositif, vont 3 fois dans l'année au cinéma voir des films. Et ce sont des films qui sont sélectionnés sur un catalogue national, et chaque département qui coordonne le dispositif choisit 3 films à l'année que tous les enfants qui sont inscrits au dispositif sur le département vont venir voir.
Voilà. On continuera dans quelques instants, Raphaël Rajad, à parler du festival L'Étoile filante à découvrir à Pessac en Gironde à partir du 13 février. Je rappelle que vous êtes coordinatrice et programmatrice justement de cet événement. On va passer à présent au clin d'œil positif. Le diocèse de Poitiers entreprend la restauration de plusieurs œuvres de son patrimoine. 7 tableaux qui doivent être rénovés. Pour cela, le diocèse fait appel au mécénat. Et il y a peu, jeudi 26 janvier, c'est le tableau de la Sainte Famille qui a retrouvé sa place dans l'entrée de la maison Saint-Hilaire à Poitiers. Pour nous en parler, Françoise Jaët, secrétaire de l'association Les Objets du Culte en Poitou, Thierry Seguin, économe du diocèse de Poitiers, et Thierry Biraud, mécène et directeur de banque à Poitiers.
Quel est l'intérêt, on va dire, patrimonial de ce tableau?
Il fait partie de l'histoire du diocèse de Poitiers. Il a été un petit peu oublié et on l'a retrouvé au moment de l'évacuation de la maison de la Trinité.
Ce tableau était abîmé. Pourquoi il avait besoin d'une restauration?
Il était très abîmé, très noirci, oublié dans un coin. Donc, il a subi les dommages de la chaleur, du froid. Eh bien, elle a été réalisée par Madame Jadot de l'atelier Verjade à Valdivienne, qui avait fait un premier devis dans les années 2015-2016.
Et c'était à hauteur de combien d'euros ce devis?
Ça approchait les 4 000 euros.
Et donc, en tout, dans le diocèse, il y avait 4 autres œuvres qui étaient encore à restaurer. Finalement, ça représente un budget de combien, la restauration des œuvres patrimoniales?
En tout, il y a 7 tableaux qui sont prévus dans une première phase à hauteur de 25 000 euros. Aujourd'hui, on a à peu près peut-être 50% de mécénat parce qu'on a vendu un certain nombre d'objets, de tableaux non cultuels ou d'objets qui étaient entreposés dans les greniers de la Maison de la Trinité. Et puis pour la dernière phase, eh bien, il faudra qu'on trouve plus de donateurs et plus de mécénats, puisqu'il y a encore 10 000 euros de dons à trouver.
Enfin, vous l'avez dit, aujourd'hui le diocèse de Poitiers est un peu en difficulté financière face à la baisse de dons. Pourquoi ne pas vendre ces tableaux plutôt que de les restaurer?
Alors les tableaux qu'on a choisi de conserver, ils sont cultuels, et donc en intérêt, ils font partie de l'histoire du diocèse, et ils font partie des trésors du diocèse, donc on ne peut pas se dessaisir de tout. Il faut quand même garder un patrimoine, une histoire. Et puis là où sont mis ces tableaux, dans l'entrée de la Maison Saint-Hilaire, ça donne du sens aussi à la fois au lieu et à l'histoire du diocèse.
Et pour le CIC, quel est l'intérêt de s'engager dans ce type de mécénat?
C'est la fidélité, les très bonnes relations qu'on entretient avec le diocèse depuis de nombreuses années. Et c'est participer à une opération qui représente un intérêt pas uniquement cultuel, mais aussi historique. Et puis faire qu'effectivement, ça puisse, comme le disait M. Seguin, permettre à toutes les personnes intéressées par un lieu nouveau suite à ce déménagement et à la présentation d'œuvres, de jolies œuvres et très esthétiques, de s'intéresser, de se cultiver.
Il est 18h29 sur RCF, c'était le clin d'œil positif. On va tout de suite retrouver à présent, comme chaque soir, le journal régional présenté par Denis Charbonnier. Bonsoir Denis.
Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Suite au tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie, la solidarité s'organise peu à peu. À Senon, près de Bordeaux, l'association Ici et Là poursuit sa collecte de dons. Ici et là-bas, pardon, poursuit sa collecte de dons jusqu'à demain soir. Les bénévoles récupèrent les dons en couverture, vêtements neufs ou nourriture. En Charente-Maritime, le port de la Cotinière dresse un bilan 2022 plutôt positif malgré la conjoncture. La nouvelle criée est un atout majeur pour ce port de l'île d'Oléron. Un bailleur social, Logelia et le SDIS de Charente ont signé hier une convention de disponibilité. Elle permet à 2 agents de Logelia de se rendre disponibles et d'honorer leur engagement comme sapeurs-pompiers volontaires. Et puis l'accordéon, instrument emblématique des bals musettes, pourrait bien être le roi des soirées électro. En tout cas, l'accordéon du 21e siècle, entièrement électronique, a été présenté par les établissements Mongin. C'est la manufacture d'accordéons fondée à Tulle en 1919.
La solidarité s'organise suite au tremblement de terre en Turquie et en Syrie, Denis.
Oui, Blandine, depuis ce séisme lundi dernier, de nombreuses associations sont à pied d'œuvre pour collecter vêtements neufs et produits d'hygiène. C'est le cas de l'association Ici et Là-bas à Senon qui multiplie les dons de particuliers à la maison des associations face à l'afflux de marchandises. Comment les bénévoles s'organisent et quels sont les produits qu'ils privilégient sur place? François-Louis Bourneau de RCF Bordeaux est allé à la rencontre des donateurs et des membres de l'association.
À Bordeaux, ce qui est préférable, c'est de faire des dons d'argent, mais après ils peuvent venir déposer des vêtements neufs, des produits d'hygiène.
On donne beaucoup de nourriture, d'écharpes, donc de bonnets, de gants. Il y a aussi des produits médicaux, donc des compresses stériles. On a reçu un déambulateur et un fauteuil roulant. Donc voilà, c'est très diversifié. Nous, en tant que bénévoles, on s'occupe de trier, de mettre dans les cartons et de faire parvenir les cartons aux personnes qui s'occupent d'envoyer les colis.
Qu'est-ce que vous avez apporté et qu'est-ce qui s'est passé?
On apporte des couvertures, des vêtements, des draps, des chaussures.
Du lait concentré sucré dans des boîtes qui n'ont jamais été ouvertes, bien sûr.
Le problème, c'est qu'il fallait des vêtements neufs, avec les étiquettes et tout.
Je trouve ça un peu raide, hein.
En effet, cette collecte prend uniquement en compte les produits neufs, donc si vous le souhaitez, vous avez jusqu'à demain encore pour faire un don à la Maison des Associations à Senon ou vous rapprocher d'associations telles que le Secours catholique, les AED ou autres ONG. 2002 est plutôt une bonne année pour le port de la Cotinière à l'île d'Oléron, véritable poumon économique de l'île. La nouvelle criée ultra moderne, mise en service pendant l'année, est un vrai plus. Elle facilite le travail des pêcheurs et des acheteurs. 90 espèces différentes de poissons sont débarquées sur ce port. Nicolas Dubois, le directeur du port, fait le point.
Nous sommes dans un nouveau équipement avec un nouveau bassin, une nouvelle halle à marée depuis mi-mars 2022. Très performant avec une productivité optimisée pour le compte des professionnels. Les marailleurs et les acheteurs conviennent que la capacité de stockage et l'amélioration du stockage, notamment le froid, améliorent les produits de la mer. Et ça se ressent notamment sur le prix moyen, puisqu'on a fait une excellente année au niveau du prix moyen, puisqu'on est à 7,05 € du kilo. Donc ça fait tout une augmentation de 7,63%, ce qui est assez considérable, qui a compensé notamment la baisse des tonnages de 10%. Là, on est dans un cycle un peu creux, mais compensé par la qualité des produits et puis le rendez-vous des acheteurs et puis des poissonniers qui sont à la marée de la Cotinière.
Le port de la Cotinière arrive à la 10e place sur les 33 ports de pêche français avec un chiffre d'affaires en 2022 de 24 millions d'euros pour le compte de 136 bateaux auprès de 115 acheteurs. La région Nouvelle-Aquitaine, elle soutient l'entreprise Weston à Limoges en accordant une aide d'environ 500 000 euros. La fabrication de chaussures a pour projet de mettre en place une nouvelle plateforme logistique ainsi que le recrutement d'une quarantaine de salariés. À Bordeaux, les chiffres de la délinquance n'ont pas augmenté en 2022. C'est le dernier bilan établi ce jeudi par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui le dit. Il suit la tendance nationale. En revanche, ce qui augmente, ce sont les fraudes sur Internet ou à la carte bancaire, plus 38% sur l'année 2022. Le nouveau préfet de Gironde et Nouvelle-Aquitaine a promis d'en faire un de ses chefs de bataille. La troisième édition du Salon à la ferme se déroulera du 18 au 26 février. Organisé par le réseau de la Confédération paysanne, ce salon a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne par le biais de portes ouvertes. Derrière cette façade plutôt festive, cette opération militante a pour thématique nationale la gestion de l'eau en agriculture, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Pierre-Antoine Rimbourg, éleveur bio à Aix en Charente-Limousine et représentant du comité national de la Confédération paysanne.
Comment la thématique de l'eau peut nous être utile pour nous rassembler tous autour d'un projet qui est le changement climatique. Alors on peut le faire à l'image de ce qui se passe en Australie. Sur le bord de la digue, avec votre téléphone, vous achetez des mètres cubes d'eau, il y a une petite trappe qui automatiquement s'ouvre, l'eau rentre dans votre champ, on peut faire ça, ça s'appelle la privatisation de l'eau. Pour nous, à la Confédération paysanne, faire société, c'est trouver ce qui fait que on peut avoir de l'eau pour des productions nourricières, pas pour des productions d'exportation, pas pour des productions d'agri-énergie, pour des productions nourricières. On veut qu'il y ait un moratoire sur l'eau, on veut que la question de l'eau se pose au niveau de la société et pas au niveau d'une privatisation de l'eau.
Voilà, pour ça, on peut en discuter lors de ce salon à la ferme de la Confédération paysanne. C'est jusqu'au 25 février dans de nombreuses fermes en région, Blandine.
Et sur un tout autre sujet, il faut offrir de bonnes conditions aux sapeurs-pompiers volontaires en entreprise, Denis.
Oui, Blandine, en Charente, deux agents de l'OGELIA, le service public de l'habitat, vont pouvoir articuler plus facilement leur vie autour de cet engagement. Hier, une convention de disponibilité a été signée entre le service départemental d'incendie et de secours et le bailleur social. Les deux agents de l'OGELIA travaillent dans l'agence de la commune de Confolens, en Charente-Limousine. Jusque-là, ils sont pompiers en dehors de leurs horaires de travail, sur leur temps de congé ou leur temps personnel. Aujourd'hui, avec cette convention de disponibilité, la situation évolue positivement. Sandrine Debrosse, directrice des ressources chez l'OGELIA, revient sur la réflexion de la part du bailleur social.
Il y a eu ces grands feux de cet été qui nous ont tous marqués, je pense, et qui nous ont fait prendre conscience qu'il était certainement nécessaire d'organiser les choses un petit peu différemment. Et quand on prend conscience aussi du nombre et de la proportion, surtout, de sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif des pompiers, on se rend compte qu'en tant qu'entreprise, on a forcément une responsabilité là-dedans pour trouver les bonnes modalités, pour trouver aussi la bonne organisation, parce que malgré tout, on se doit, nous, de préserver notre effectif et notre disponibilité pour nos locataires, puisqu'il se trouve que ce sont des agents de proximité, donc ils sont vraiment en contact quotidien avec les locataires. Donc on a eu ces échanges-là pour trouver le meilleur compromis, pour faire en sorte que ce vivier-là il puisse aussi être conservé.
Sandrine Debrosse, jointe par Erika Walter. Cette convention de disponibilité signée hier doit permettre de la souplesse pour coller aux besoins de l'engagement comme pompier volontaire des agents de l'Ogélia entre intervention, mais aussi formation, garde, disponibilité, réactivité pour agir au mieux et remplir leur mission. Les instruments de musique passent au numérique en Limousin. La musique se modernise même en Corrèze, à Tulle. Après l'harmonica numérique, les établissements Mogin ont sorti en fin d'année un accordéon numérique. En clair, c'est un accordéon du 21e siècle, bardé de logiciels numériques capables de reproduire le son d'un accordéon. De quoi vous couper le soufflet, Christian Sirgues?
Il y a toujours le soufflet, puisqu'à l'intérieur, on a un capteur de pression qui va mesurer la pression et qui va permettre... Il va permettre avec le soufflet de faire modifier le volume comme sur un accordéon normal en fait. La seule différence, c'est que le son, au lieu de sortir de l'accordéon, eh bien, il va sortir par un haut-parleur, puisque à l'intérieur, on a enlevé toute la musique et on n'a mis que de l'électronique. L'accordéon, en fait, il est vide à l'intérieur, et donc on est relié à une petite carte son à l'extérieur, qui est elle-même reliée sur une sono, une petite enceinte, un petit ampli. Et c'est l'ampli qui va diffuser les sons de l'accordéon.
Voilà, c'était Christophe Sirgues, commercial chez Mogin. Il était interrogé par Philippe Dotteville de Bram FM. Il aura fallu 100 ans quand même à la manufacture d'accordéon de Tulle pour moderniser son piano à bretelles. Hier soir, des étudiants en Charentais se sont servis d'arguments, de formulations et de leur voix pour convaincre le jury. Ils participaient au concours d'éloquence porté par la faculté de droit et le barreau de la Charente. Ces 19 étudiants étaient réunis pour la demi-finale au campus des Valois. La couronne. 6 d'entre eux ont rendez-vous pour la finale le 15 mars au tribunal judiciaire d'Angoulême avec des sujets comme « Faut-il cultiver le jardin de son voisin ?» ou « Peut-on être trop libre de s'exprimer ?»
Et de façon plus terre-à-terre, Denis, quel sera le temps demain en Nouvelle-Aquitaine ?
Mais suite à une journée bien ensoleillée et une nuit très claire, le lever de jour facilitera la formation de brume et de brouillard, parfois givrant sur toute la région, sauf sur le Poitou et la Charente-Maritime demain. Les températures seront négatives le matin, moins 1 à moins 5 degrés pour Limoges. Demain après-midi, sous l'effet du soleil, ces températures évolueront de nouveau pour atteindre les 9 à 11 degrés, Blandine.
Oui, merci beaucoup Denis, on vous retrouvera demain soir à 18h30 pour le journal régional. On continue cette émission. Ce soir, nous sommes avec Raphaël Ringette, coordinatrice et programmatrice du Festival Les Toiles Filantes à Pessac, festival de cinéma dédié au jeune public. Alors, on le disait, l'idée de ce festival, c'est aussi d'intéresser les parents. Il y a notamment Le Roi et l'Oiseau qui va être projeté. Ça parle aussi aux parents de la génération 70-80. Ça aussi, c'est ça l'idée, de faire découvrir aussi des films qui parlent à tout le monde.
Exactement. L'idée, c'est à l'occasion de ce festival, de faire découvrir des films qui nous semblent importants. Le Roi et l'Oiseau, nous, on le considère comme un chef-d'œuvre du cinéma. Et c'est l'occasion pour les jeunes enfants de le découvrir sur grand écran. Et puis pour les parents qui l'ont vu peut-être quand ils étaient plus jeunes au cinéma ou pas au cinéma, de le redécouvrir. Et sur grand écran, c'est toujours une autre dimension. Et ça nous semble vraiment important. Ouais.
Il y en a d'autres films comme ça qui sont dans cette édition, qui sont des vieux films, entre guillemets?
Et ben peut-être qu'on peut. Alors, je pense que c'est le film le plus ancien. Mais par exemple, on propose La Marche de l'Empereur cette année, qui est sorti en 2000. Donc ça a quand même une petite vingtaine d'années et qui avait été un grand succès au cinéma quand il est sorti. Et c'est l'occasion de faire découvrir ce film. Donc c'est un documentaire sur les manchots empereurs. Et voilà, c'est l'occasion de faire découvrir ce film aux plus jeunes. Dans une salle de cinéma.
Alors, on le disait, il y a des longs-métrages, mais aussi des courts-métrages. Est-ce que c'est un peu par égal ou est-ce qu'il y a plus de longs-métrages que de courts-métrages ?
J'ai pas compté, je dirais qu'on a... Oui, ça doit être à peu près à part égal. On a quand même beaucoup de programmes de courts-métrages cette année. On a beaucoup... Donc, en plus des deux sélections dont on a parlé, la sélection thématique et la sélection des films en compétition, il y a aussi des films en séance spéciale. C'est pour nous l'occasion soit de faire des séances spéciales parce qu'on a un invité comme Pierre-Luc Grandjean cette année, donc on va redécouvrir des films, des courts-métrages de Pierre-Luc Grandjean. Et puis il y a des programmes de courts-métrages qui sont des avant-premières qui n'étaient pas sélectionnés pour la compétition, mais c'était l'occasion de les faire découvrir à nos spectateurs. Donc on a pas mal de programmes de courts-métrages, je crois, cette année dans la sélection.
Alors, Il y a toujours des invités lors de ce festival, vous nous le disiez à l'instant, réalisateurs de ces films ou pas forcément?
Alors on a cette année, donc il y a Pierre Le Grandjean qui a réalisé Les 4 saisons de Léon, qui sont 4 courts-métrages. Il y a, on a la chance d'accueillir Charlie Belin, qui a réalisé Drôle d'oiseau, donc un des courts-métrages du programme À vol d'oiseau. Et puis on a aussi une scénariste, Patricia Mortagne, qui sera là pour accompagner le programme Louise et la légende du serpent à plumes. Elle est scénariste du film. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer des métiers différents. On aura aussi un dresseur animalier qui va venir avec un aigle à l'occasion de la séance La jeune fille et son aigle. Voilà, on a aussi Lionel Charpie qui a eu la chance de travailler aux côtés de Paul Grimaud. Donc on parlait tout à l'heure du Roi l'Oiseau. Paul Grimaud en est le réalisateur. Et Lionel Charpie a travaillé à ses côtés sur les décors du Roi l'Oiseau. Et il viendra nous parler de ce travail.
De ce qu'il a vécu en fait.
Ouais, qu'il a vécu, de cette rencontre, de ce travail sur ce film. Voilà, et on a aussi la réalisatrice Sung Ha-min, qui est une réalisatrice coréenne, mais qui vit à Talence et qui a réalisé 2 des courts-métrages du programme Piro Piro, et qui va venir accompagner une séance. Et à la fin de la séance, elle fera faire un petit atelier dessin aux enfants. C'est un programme qu'on propose à partir de 3 ans, donc c'est vraiment pour les tout-petits. Mais dans la salle, à la fin de la séance, elle va montrer comment on peut dessiner un oiseau. Et les enfants auront des petites tablettes avec des crayons et des feuilles pour pouvoir dessiner eux-mêmes des oiseaux. Voilà.
C'est ça aussi la particularité de ce festival, c'est toutes ces animations qui sont accolées autour. Il y en a forcément une à chaque fois ou pas forcément?
Alors, sur toutes les séances de la thématique, donc tous les films qui sont sélectionnés sur le thème Drôle d'oiseau, les 11 films, toutes les séances de tous les films sont accompagnées d'une animation. Alors, c'est soit une animation en salle, comme par exemple le dessin avec la réalisatrice, soit des quiz, par exemple, pour toute la salle, où on a aussi l'écocide du Bourgail, qui est juste à Pessac et qui va venir faire une animation de séance dans la salle pour tout le monde. Et puis, il y a aussi des ateliers qui se font après la séance. Alors là, c'est sur réservation. Il y a
des
pas
ateliers
forcément
bricolage, par exemple.
Des ateliers, souvent des ateliers dessin, où je parlais tout à l'heure de l'atelier pâte à modeler. Il y a des ateliers de peinture, il y a des ateliers d'origami. Cette année, on a des origami grues et des origami pingouins sur le thème des oiseaux. On a un atelier aussi avec les espaces verts de Pessac qui vont venir faire des petits nids aux enfants. Il y a plein d'ateliers sur le thème des oiseaux qui peuvent se faire après les séances. Voilà, donc on a effectivement, c'est la spécificité de ce festival, c'est que vraiment toutes les séances du thème sont accompagnées. Les séances de la compétition, elles n'ont pas d'accompagnement particulier, mais parfois il y a des rencontres. Ce sera le cas cette année avec Charlie Belin, par exemple, dont son film est en compète et elle sera là pour l'accompagner. Et puis sur les séances spéciales, il y a souvent aussi des animations.
Le dimanche, il y a un petit déjeuner aussi, j'ai lu ça sur le programme.
Oui, on propose cette année, pour toutes les séances du dimanche matin, on propose avant la séance de partager un petit déjeuner avant de rentrer en salle.
Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ces animations?
Eh ben, les inscriptions, c'est pour tout ce qui est atelier. Dans notre programme, qu'on peut voir sur notre site internet ou qu'on peut avoir en programme papier, il y a une page des animations où il y a un petit code avec les ateliers, c'est un petit A, et les animations, les lectures, tout ça, c'est un autre code. Et il faut réserver que pour les ateliers.
D'accord.
Voilà. Et après, on peut d'ores et déjà prendre ses places de cinéma directement sur notre site internet l'étoilefilante.org dès maintenant.
Est-ce que vous avez des coups de cœur pour ce festival?
Ah, j'en ai plusieurs. On parlait du Roi et l'Oiseau tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Mais c'est... Après, il y a des films comme Capitaine, qui est un film en compétition qui m'a vraiment... ces 2 courts-métrages qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Il y en aurait plusieurs. Après, oui, je voulais reparler quand même aussi des 4 saisons de Léon de Pierre-Luc Grandjean. C'est 4 films de 26 minutes qu'on va passer en 2 séances distinctes, avec 2 épisodes dans chaque séance. C'est des films qui ont été faits en 2008, 2012, que j'ai revus pour la programmation du festival et où je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est de l'animation en volume pour les enfants à partir de 3-4 ans, mais qui peuvent être vus par les plus grands. Et c'est vraiment intelligent, c'est beau, voilà, y a vraiment plein de choses. Et puis j'ai beaucoup de coups de cœur, mais ce serait presque toute la programmation.
Alors, au-delà de ce festival, vous occupez toute l'année au cinéma Jean Eustache de cette programmation jeune public. Comment, justement, on adapte la programmation pour plaire aux jeunes enfants? C'est pas juste programmer des dessins animés, en fait.
C'est pas juste programmer des dessins animés, mais c'est choisir... Alors, on fait aussi avec les films qui sortent, on fait avec ce que les distributeurs de films nous proposent, mais on voit les films et on choisit les films qu'on souhaite programmer, on choisit aussi les périodes, on essaye sur le jeune public, on peut se permettre de pas forcément avoir les films tout le temps en sortie nationale, mais de les positionner au fur et à mesure de l'année. Et puis, tout au long de l'année, on a aussi parfois des films plus anciens qu'on choisit de programmer.
De les remettre à l'écran.
Par exemple, dans le cadre de nos petites Unipop, qui est un dispositif spécifique aux Jean Eustache, où on propose cette année 13 séances tout au long de l'année, entre septembre et juin, où on passe des films plus anciens, comme La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qu'on a passé récemment, ou bientôt on va passer Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki, on a passé aussi L'Histoire sans fin, mais on peut passer aussi des films plus récents, et même en avant-première, et toute l'année, on va choisir comme ça des films... Vous parlez des films plus anciens, donc voilà, on va pouvoir faire on fait ces choix de programmation parce que ça nous semble important de remontrer ces films au jeune public.
Comment on adapte des séances à des enfants en bas âge, en dessous 5 ans? On fait des formats plus courts?
Alors, en tout cas, les films qu'on propose pour les enfants de 3 ans, 4 ans, ce sont des films, souvent des programmes de court-métrage qui durent moins d'une heure. C'est pas nous vraiment qui les adaptons, puisque c'est les distributeurs qui proposent les films. Mais effectivement, on propose rarement un film d'une heure et demie pour des enfants de 3 ans.
Et on met peut-être la musique un peu moins fort, on
Exactement.
Adapte aussi.
Ça, c'est dans nos salles de cinéma, les projectionnistes sont attentifs à faire en sorte que quand on a un public de jeunes enfants, on met pas le son trop fort, on met pas peut-être trop de publicité non plus avant les films, on adapte la séance, effectivement.
Alors, tout au long de l'année, donc, il y a cette programmation. Et aussi, j'imagine qu'il y a aussi un public scolaire qui vient dans ce cinéma aussi.
On accueille toute l'année des écoles, soit qui veulent venir voir des films de la programmation, soit dans le cadre de dispositifs, on en a parlé un petit peu
tout à l'heure,
des dispositifs nationaux ou des dispositifs territoriaux au niveau du département ou au niveau même de la ville. Il y a de nombreuses choses qui sont mises en place pour que les enfants puissent venir au cinéma voir des films.
Avec peut-être des débats après, derrière ? Est-ce qu'il y a forcément un échange ou pas forcément ?
Il n'y a pas forcément un échange, mais par exemple sur les films d'école et cinéma ou maternelle et cinéma ou même collège et cinéma dont on parlait tout à l'heure, le débat n'a pas forcément lieu dans la salle de cinéma, mais en revanche ce sont des dispositifs sur lesquels les professeurs choisissent de s'inscrire et donc eux, ils ont un travail en amont des séances et après les séances qu'ils font avec leurs élèves.
Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des écoles d'animation, notamment Angoulême. Le secteur est en plein essor avec de nombreuses techniques. Vous le voyez, ça aussi, cet essor du film d'animation ?
Il y a beaucoup, beaucoup de films d'animation, effectivement, qui nous sont proposés. Et il y a beaucoup
des
de productions.
Des nouvelles techniques aussi.
Alors, sur les nouvelles techniques, on est plus sur les techniques numériques. Donc oui, bien sûr, on le voit dans ce qui est proposé. Et on voit surtout qu'il y a beaucoup de propositions et ça nous permet d'avoir un choix.
Ça enrichit l'offre, en fait.
Tout à fait, je pense qu'il y a quelques années, alors moi ça fait que 7 ans que je travaille dans l'exploitation cinématographique, mais je pense qu'il y a 10-15 ans en arrière, il y avait moins de propositions, en tout cas pour le jeune public, qu'actuellement.
Alors on va terminer en rappelant bien sûr ces dates pour ce festival, les toiles filantes, ça démarre lundi.
Ça démarre lundi 13, dès le matin, même si la séance d'ouverture est le soir à 17h30 avec un super film qui s'appelle Titina, un film norvégien. Et puis ça finit dimanche, jusqu'à dimanche après-midi. Et la séance de clôture, c'est samedi avec une avant-première mondiale des Grandes Vacances de Cowboy et Indien, un très beau film d'animation en volume.
Vous nous conseillez de réserver les places ?
Je vous conseille de réserver les places, absolument. Donc, sur le site l'étoilefilante.org.
Donc on peut payer ses places en ligne ?
On peut payer ses places en ligne. Et on a un tarif très avantageux pour les familles, à partir de 3 personnes d'une même famille. Donc les enfants, c'est toujours 4,70. Pour tous les moins de 18 ans, c'est 4,70. Mais les tarifs adultes, quand on est au moins 3 dans une famille, ça passe à 5,50.
Donc, ça permet de faire une sortie un petit peu moins chère et de profiter en famille tous ensemble.
Tout à fait. Par exemple, deux parents, deux enfants, ça coûte 20,40 € pour venir voir
pour toute la famille.
Pour toute la famille.
Merci beaucoup Raphaël Ringette d'avoir été notre invité tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes coordinatrice et programmatrice du festival L'Étoile Filante à Pessac du 13 au 19 février. Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Le 18-19, la chronique santé.
On termine cette émission comme chaque jeudi avec la chronique santé avec vous, Dominique Jobert. Bonsoir.
Bonsoir Blandine.
On fait le point aujourd'hui sur l'épidémie de Covid-19, déjà 3 ans, Dominique.
Et oui, 3 ans, et aujourd'hui à peu près 80% de la population française a été touchée au moins une fois par le Covid ou vaccinée. L'épidémie a fait 164 000 morts, 9 vagues successives se sont succédées avec une nette diminution de l'intensité de ces vagues depuis la plus forte en nombre de contaminations de janvier 2022, et la plus forte mortalité avait été constatée au cours des premières vagues, en particulier celle de mars 2021 avec plus de 800 décès par jour à l'époque. Actuellement, tous les indicateurs épidémiques sont au plus bas avec moins de 2500 nouvelles contaminations par jour, une baisse des hospitalisations, du nombre de patients en réanimation et du nombre de décès, même s'il persiste probablement une petite circulation virale et s'il n'y a des personnes qui se testent par autotest et ne déclarent pas leur positivité. Et finalement, les seuls tests PCR faits en laboratoire sont comptabilisés. Alors, les autorités de santé ont supprimé à partir du 1er février l'obligation pour ces contacts de se faire dépister, mais maintiennent le conseil pour les personnes testées positives au Covid et à leurs contacts proches de respecter les gestes barrières et d'éviter le contact avec des personnes fragiles.
Alors, 160 000 morts en France, c'est beaucoup, mais avons-nous fait mieux ou plus mal que d'autres pays ?
Il y a eu incontestablement au début une saturation des hôpitaux, des services de réanimation, une forte mortalité, surtout chez les personnes à risque et faute de traitement efficace. Mais la plupart des pays économiquement équivalents aux nôtres ont connu les mêmes difficultés et le nombre de morts rapportés à la population n'est pas très différent selon les pays. Même la Suède, où les mesures d'isolement et de confinement ont été beaucoup moins fortes, n'a pas eu plus de morts que la France. Clairement, la plus forte mortalité est enregistrée dans les pays les moins vaccinés, comme ceux d'Europe de l'Est.
Alors, les chiffres de l'épidémie sont actuellement très bas. La 9e vague a-t-elle été la dernière ? Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie est terminée ?
Pour l'instant, les chiffres continuent à baisser. Il n'y a pas d'indication de reprise épidémique comme on en a observé lors des vagues précédentes qui se succédaient l'une derrière l'autre. Ceci alors que le port des masques a été abandonné en population générale depuis plusieurs mois et qu'il faut bien dire que les précautions se sont nettement relâchées. Les nouveaux variants signalés en Chine ou aux États-Unis ne semblent pas pour l'instant arriver jusqu'à nous. L'immunité collective conférée par les infections et les vaccinations agit certainement pour ralentir la circulation des virus et pour rendre les infections qu'on a tous eues plus ou moins au cours des derniers mois tout à fait bénignes. Mais on ne peut pas dire encore que l'épidémie est réellement terminée.
Donc on ne peut pas encore remiser les masques et vivre normalement ?
Oui, on peut vivre normalement, mais en restant attentif et en prenant des précautions auprès des personnes à risque, en limitant les contacts et en portant le masque en cas de toux ou de fièvre. C'est de toute façon utile, quel que soit le virus en cause, comme par exemple la grippe.
Merci beaucoup Dominique Jobert, une chronique à réécouter sur le site rcf.fr. C'est la fin de cette émission. Ce soir, notre invitée était Raphaël Ringette, coordinatrice et programmatrice du festival L'Étoile Filante à Pessac. Merci comme chaque soir à tous les journalistes de RCF qui collaborent pour cette émission. Ce soir, c'était Marius Roland à la technique à Bordeaux. Demain, on parlera de la journée internationale de l'épilepsie. Elle a lieu ce lundi 13 février. Elle a pour objectif de faire évoluer le regard de la société sur cette maladie qui touche près de 700 000 personnes en France. Je recevrai Gilles Guibert, délégué Épilepsie France pour la Gironde. Ce sera à partir de 18h10 demain soir.